Il est précisément 9h. Bonjour tout le monde. Bon mardi à notre antenne. Bienvenue, Félix-Antoine Parent.
Salut, Anne.
Tu as connu une belle fin de semaine d'aller faire un petit tour aux eaux de Granby.
Oui, exactement. C'était le fun avec les enfants. Ben, puis, oui, c'est ça. C'était agréable. C'est vraiment une petite sortie. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une comme ça.
Ça fait du bien.
Oui.
Hein? Sortir de ses habitudes depuis un an et demi à peu près.
C'est le fun de voir des animaux comme ça qu'on ne voit pas tous les jours.
Oui. Avais-tu déjà été, toi, aux eaux de Granby?
Oui. Ça faisait un petit bout, là. Je me souvenais plus. C'est en rentrant sur le site, je me suis dit, ah oui, c'est ici, ça.
Oui, c'est vrai.
C'est là, ça. Ah, c'est ça. Oui, je me souviens. Là.
Ah, ben c'est le fun.
Non, c'est ça, c'est agréable. Puis, c'est ça.
Ben, bon retour ce matin.
Ben, merci beaucoup, Anne.
Félix-Antoine, on parle de l'ancien pensionnat de Saint-Marc de Figuerie. Je donne Baudrillard des pleurs, les commentaires du maire Daniel Rose.
Le maire de Sainte-Marc de Figuerie, Daniel Rose, est sorti publiquement pour commenter le dossier de l'ancien pensionnat autochtone situé dans sa municipalité la semaine dernière. Selon lui, il serait étonnant de faire les mêmes découvertes qu'à Kamloops si des fouilles sont menées sur son territoire situé en Abitibi-Témiscamingue. En entrevue avec Radio-Canada Abitibi, Daniel Rose affirme que son père était un gardien de nuit à l'ancien pensionnat de Saint-Marc de Figuerie. Celui-ci dit avoir participé à des soirées thématiques où l'esprit de fête régnait auprès des jeunes membres des Premières Nations. John Baudrillard, grand chef du Conseil tribal de la Nation algonquine, estime que les commentaires de M. Rose démontrent un manque de connaissance sur la réalité des peuples autochtones à travers la société canadienne.
Encore une fois, je ne suis pas surpris. C'est juste dommage. Pour moi, en tout cas, ça a tout de suite démontré du niveau d'ignorance qui peut exister. C'est pas une personne qui a habité les pensionnats, le pensionnat. Nos gens qui ont habité le pensionnat, ils ont une différente histoire à dire. Ils ont des moments tragiques à partager. Il y a juste à être un jour dans les souliers d'un autre pour voir vraiment la réalité.
Le grand chef Baudrillard croit que les opinions de M. Rose sont illégitimes dans un contexte où ce sont les survivants, justement, des pensionnats qui détiennent la vérité sur la vie à l'intérieur de ces établissements. On l'écoute.
Mais on a des survivants encore qui sont avec nous. Puis eux autres, les histoires qu'ils partagent, c'est l'histoire que je vais prendre. C'est sûr que la société canadienne va avoir des différentes opinions. Ils ont le droit à des opinions. Mais sauf que c'est où la source? La source, c'est nos gens. C'est nos personnes. C'est nos gens qui sont allés en pensionnat. Ils sont allés eux autres même directement puis nous a dit directement les réalités. Puis même si M. le maire a vu fêter, une instance tragique vaut pas 1000 instances de fête.
John Baudrillard affirme que les chefs des différentes communautés algonquines se rencontreront dans les jours à venir pour discuter de cet enjeu. Les aînés de la nation algonquine sont également consultés pour déterminer s'ils souhaitent effectuer des fouilles sur le site de l'ancien pensionnat de Saint-Marc de Figuerie.
L'attrait et le maintien de travailleurs étrangers exacerbés par la pandémie.
L'attraction et le maintien de la main-d'œuvre étrangère au Québec ne sont pas des défis qui datent d'hier, mais la COVID-19 est venue accentuer celle-ci. Les nombreux départs à la retraite et le manque de main-d'œuvre pour pallier ces postes seraient à l'origine du besoin de recruter des travailleurs étrangers. La fermeture des frontières a causé un obstacle important à ce recrutement. Le Québec peut accueillir 45 000 travailleurs étrangers par année, mais seulement 25 000 ont été en mesure de venir travailler ici dans la dernière année. Au Québec, 150 000 postes sont toujours à combler, selon le président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté. Il s'agit d'un enjeu complexe.
Malheureusement, au Québec, on n'a peut-être pas fait assez de bébés dans les 30 dernières années pour combler ces besoins de main-d'œuvre-là qui s'en venaient. Là, il va y avoir une réouverture, mais est-ce que ce sera suffisant? Puis, il y a des programmes gouvernementaux pour soutenir parfois de la robotisation, de l'innovation en entreprise. Il y a plein de corps de métiers qui n'ont aucune robotisation qui va pouvoir remplacer un humain si on pense préposer aux bénéficiaires ou si on pense aux gens qui travaillent dans des commerces de proximité. Donc, il faut attirer des travailleurs.
La pandémie a tout de même contribué à faire augmenter le désir des grands espaces. Avec le télétravail, les gens peuvent maintenant s'installer en région pour travailler, même si le siège social de l'entreprise se situe en centre urbain. Daniel Côté indique qu'il s'agit là d'un aspect intéressant.
Donc, ce type de dossier-là, effectivement, va favoriser une meilleure répartition, je dirais, de la main-d'œuvre sur le territoire. Ça vaut autant pour la main-d'œuvre qui est déjà présente au Québec que pour les nouveaux travailleurs. Et d'autre part, il y a une autre façon aussi qu'on a déjà eu de s'impliquer. Là, avec la réouverture des frontières, ça va peut-être redevenir possible. L'UMQ a déjà envoyé plusieurs de ses membres dans des délégations pour aller faire du recrutement de main-d'œuvre directement à l'étranger, dans des foires de l'emploi ou des trucs du genre, pour attirer de la main-d'œuvre étrangère au Québec.
L'Union des municipalités du Québec souhaite s'asseoir avec les deux paliers gouvernementaux pour regarder ce qui pourrait être amélioré dans les programmes pour qu'ils soient plus attractifs. Selon l'UMQ, les élus municipaux sont les plus près de la réalité et pourraient être une référence importante pour les décisions gouvernementales en matière de main-d'œuvre.
L'ail des bois, maintenant, le ministère de l'Environnement rappelle l'importance de protéger l'espèce.
Après de récents événements de braconnage liés à l'ail des bois dans la vallée de la Gatineau, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques rappelle qu'il s'agit d'une espèce menacée dont le commerce est interdit. Si la récolte est tolérée sous certaines conditions, la cueillette de masse peut rapidement contribuer à son déclin. Dominique Bérère, il est président de l'organisme Forêt Vive dans la vallée de la Gatineau. Il précise comment s'assurer d'une cueillette responsable.
Faire preuve de patience, c'est-à-dire de ne pas cueillir tout de suite au début parce que le bulbe est très petit, attendre vers la fin. Donc, ça, on a besoin d'en cueillir moins. Puis, ensuite de ça, quand on fait attention, quand on cueille l'ail, on peut voir que entre les deux feuilles, là, pousse une tige florale. Ils disent d'éviter de recueillir ces plants-là, parce que c'est les plants reproducteurs. Si on cueille, par exemple, plus que 8 à 10 d'une talle, on voit à ce moment-là, la population d'ail peut se mettre à décliner.
Comme elle est une des premières plantes à émerger du sol au printemps, ses feuilles emmagasinent des minéraux du sol après la fonte des neiges pour les retransmettre au reste de l'écosystème lorsqu'elle se décompose par la suite. L'ail des bois joue donc un rôle écologique important pour le maintien de la santé du sol des érablières notamment. Puisque l'espèce fait partie d'un écosystème interdépendant, les coupes forestières peuvent nuire à son cycle de régénération, comme l'explique M. Bérère.
Une étude qui a été faite à savoir si la coupe forestière pouvait nuire à l'ail des bois. Puis cette étude-là a montré que quand c'est du jardinage, ça ne cause pas de dommages. Mais c'est évident que quand c'est des coupes totales, c'est-à-dire qu'on coupe complet, on rase tout, là, c'est évident que ça va faire du tort à l'ail parce que ça va rajeunir la forêt. Puis c'est une plante qui pousse à l'ombre. Donc, si on enlève trop de bois, c'est évident que là, il va s'en aller. Il va disparaître.
Selon les données recueillies par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, seulement 30 sites de la vallée de la Gatineau, là, on retrouve en fait seulement 30 sites où se trouvent là, des plants d'ail des bois. Néanmoins, puisque l'espèce ne fait pas l'objet d'un recensement systématique dans la région, il est possible que l'espèce y soit plus abondante. C'est les informations qu'on a reçues.
Puis il y a une méthode aussi hein, pour enlever ça, là, pour que ce soit...
Effectivement, il y a même des graines après ça. Les gens disent, c'est le bulbe qu'on replante. Mm-hmm. Mais en dessous, il y a comme des racines en dessous du bulbe. Puis il y a des petites graines noires. Mais il faut pas juste les prendre puis les planter. Le Doc Bérard, ce qu'il disait, c'est qu'il faut les prendre, les faire geler dans le congélateur pendant un an. Après ça, on les ressort, puis là, ils sont prêts à être plantés, mais il y a un temps de l'année. Là, puis c'est plus, je pense, c'est à l'automne plus que le printemps. Comme ça, ils passent l'hiver, puis après ça, ils reviennent au printemps. Puis en tout cas, c'est une autre affaire, ça.
Toute une affaire. Ah, ouais. Ben, c'est bien. On se retrouve tantôt pour parler du butin de 10 heures.
À tantôt, Anne.
Bonne journée.